Bonjour, je vous remercie d'être venu assister à cette conférence qui nous permet de recevoir Anne-Lise Roux. Alors habituellement, les modérateurs, qui sont souvent des professionnels, ce n'est pas mon cas, je suis plutôt un professionnel du rez-de-chaussée. Moi, je vends les livres en direct, seul à seul, et je peux m'expliquer. Là, je serai seul à seul avec Anne-Lise Roux. Habituellement, ils ont beau jeu de dire qu'ils ont un très grand plaisir à accueillir l'auteur. C'est sincère ou ça ne l'est pas. Avec moi, c'est sincère, et ça l'est d'autant plus que Anne-Lise m'a lancé dans ce piège en me disant qu'elle aimerait bien que ce soit moi qui le fasse. Voilà. Sans doute une vieille vengeance à assouvir. Et je vais donc tenter d'être à la hauteur de ce défi qu'elle me lance. Alors c'est un plaisir vraiment particulier parce que Anne-Lise Roux, c'est un auteur que je n'ai pas découvert avec La solitude de la fleur blanche, qui est le livre dont nous allons parler ce soir, mais que je la lis depuis son premier livre. À l'époque où, quand on m'a dit qu'il y avait un auteur local dans la série noire, je me suis un peu étonné. Ne lisant jamais de polar, je me suis dit que ça valait peut-être la peine d'essayer. Pour découvrir un auteur, un véritable auteur, qui ne me semblait pas être particulièrement un auteur de polar. Voilà. Alors elle a démontré donc, à mon avis, tout son talent de romancière dans ses trois livres, paru la série noire, dans un récit aussi sur Roger de Traversée, qui a été édité au bon soin des éditions Mola. Et nous avions, à vrai dire, une certaine impatience, il y a quelques mois, à découvrir ce roman qu'elle nous annonçait, en plus, à l'enseigne des éditions Sabine Vespizer, qui est une maison d'édition très aimée des libraires. Voilà. C'est une maison encore assez jeune, donc on l'autorise tout et on aime beaucoup ce qu'elle fait. On verra dans 10 ans. Donc, ce livre nous parvient avant l'été. Et tout en le lisant, je me disais, il va falloir que j'en parle avec Anne-Lise. Ça va être terrible. Imaginons que je n'aime pas le livre. Dieu merci. Dieu merci. Ce livre que j'ai déjà donc lu 3 fois est un livre qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a enchanté, ce qui le rend d'autant plus difficile à conseiller, puisque plus on aime un livre, plus on se met à en parler, plus on se met à être brouillon, et plus on se met à inquiéter les futurs lecteurs. Alors ici, on va vous inquiéter en direct, puisque je vais poser des questions anodines ou terribles à Anne-Lise, et j'espère qu'elle répondra autrement que par oui ou par non. Alors, ce livre, qui s'appelle « La solitude de la fleur blanche », un titre très beau, très énigmatique, dont il faut attendre quasiment la fin pour avoir l'explication, est un livre sous-titré roman. Alors au début, on pouvait se dire, est-ce que c'est un roman policier en hommage à Marlowe et à l'Orchidée? Est-ce que c'était un livre sur la beauté du patrimoine floral en Médoc? C'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été très exploré. Ou alors plutôt une confession douloureuse ou un parcours peut-être placé sous le sceau de la littérature. Ça, c'était le défi du départ et très vite, je me suis rendu compte que ce livre était extrêmement troublant. Carrément attachant. Alors, c'est un livre qu'on emmène avec soi en vacances et on a un peu de mal après à le mettre sous la pile quand on a terminé. D'une écriture vraiment que j'ai trouvée sinueuse et très belle et qui trouve des phrases très intenses, très justes, toujours bien trouvées, c'est-à-dire travaillées mais qui ne sentent pas le travail pour raconter ce difficile, ce que j'appelle le métier de vivre, pour suivre un peu les traces de Pavese, le grand écrivain italien. Quand on est d'une famille déracinée, dans un lieu qui ne vous laisse pas prendre racine, et ce lieu, c'est le Médoc. Alors, ces déracinés, on les appelle couramment des pieds noirs, je ne sais pas si c'est, on verra si c'est un terme qui vous plaît. Ils sont plutôt modestes, et si ce roman n'est, à mon avis, surtout pas un roman sur ces gens-là, il en est au moins l'émanation et la conséquence. Voilà. Alors, moi, je vais essayer de faire en sorte de ne pas seulement parler des pieds noirs, mais de parler aussi de cette dame qui écrit un livre. Qui parle d'eux, qui parle de ce bouleversement qui est le sien depuis son enfance, d'appartenir à ce groupe immense et dont on parle si peu, mais de parler aussi de l'écrivain qu'elle est devenue, peut-être grâce à ça. Moi, mon impression quand j'ai terminé ce roman, c'était d'avoir eu en main une sorte de livre de l'intranquillité. Vraiment, c'était le mot intranquille me paraissait convenir merveilleusement à ça, et puis renvoyer peut-être à un écrivain qui avait lui-même porté beaucoup de masques et pour qui la littérature était une façon d'assumer tous ces masques. Et je crois que cette intranquillité, elle distingue vraiment les vrais écrivains de la cohorte de graphomanes ou de simples raconteurs d'histoires qui envahissent nos tables. Parce que je pense qu'Anne-Lise Roux ne fait pas que raconter des histoires. Alors, dans votre village, vous racontez ça un moment, et c'est assez étonnant. Il y a l'idiot du village, comme il y en a souvent dans le Médoc, et puis il y a l'écrivain du village. Et vous aviez avec cet idiot du village un peu un statut à part. Vous parlez de périmètres mentaux inexplorés qui étaient les vôtres. Alors, lui, c'était plutôt l'autisme. Et vous, c'est plutôt la littérature. Votre mal s'appelle la littérature, un mal terrible. Alors, vous parlez au début du livre d'un grand artiste qui s'appelle Angelin Preloca. Je n'ai jamais su comment ça se prononçait, c'est albanais. C'est un danseur et il a un point commun avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est cet étrange point commun que vous avez avec cet albanais au nom si difficile à prononcer ?
Oui, alors c'est vrai qu'avec vous évoquiez tout à l'heure Pessoa, qui est une référence extrêmement, extrêmement importante et tendre pour moi, autour de l'intranquillité. Alors Preloca, c'est vrai que c'est un Albanais, c'est un chorégraphe, et il a cette caractéristique qu'il est dans le ventre de sa mère quand sa mère passe la frontière. De sorte que c'est pas vraiment un déraciné, puisque quand il naît dans des camps de réfugiés, donc il naît français, enfin il est loin des troubles finalement de l'Albanie natale. Mais c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, transportera ce traumatisme. Et je crois le traduira en danse. Je pense que les traumatismes sont des choses qui sont évidemment susceptibles de faire des bons, de génération, mais pas seulement. C'est-à-dire que ça peut être de l'ordre d'une pensée, ça peut être quelque chose qui poursuit, qui ne vous est pas arrivé, mais à quoi vous avez pu penser, quelque chose qui a pu vous atteindre, bien que ce ne soit pas une chose personnelle. Et Preloca, cet exemple-là est touchant pour moi parce qu'en effet, il est dans le ventre de sa mère et pourtant il va cristalliser une forme de traumatisme dans sa danse. Et je crois que probablement, et il le dit lui-même d'ailleurs, cette errance, cette quête intérieure se traduira dans ses pas. Comme peut-être moi, en effet, ça s'est traduit en littérature. Cette intranquillité que vous dépeignez tout à l'heure m'a toujours atteinte. Et peut-être qu'en effet, c'est à cause de ça que on se met à écrire, on se met à peindre, ou on se met à faire de la musique. Là où finalement on pourrait aussi rester très très tranquille dans la vie et se tenir loin de ce genre, j'allais dire, de désagrément. C'est pas que ce soit entièrement un désagrément, mais enfin, c'est pas forcément, en tout cas, une chose si évidente, si... C'est très curieux finalement. Pourquoi est-ce qu'on va devenir écrivain? Pourquoi est-ce qu'on va écrire des livres? Est-ce que c'est une chose entièrement naturelle, je n'en suis pas sûre.
Parce que c'est quand même un des grands thèmes du livre, on peut le dire. Les gens parlent beaucoup de pieds noirs à propos de Zoli, mais le thème principal, c'est qu'est-ce qui fait que certains deviennent écrivains. Beaucoup souffrent, et dans ce lot-là, il y en a certains qui deviennent écrivains. Est-ce que c'est pas au bout du compte, enfin, on est déjà au bout, mais le ressort principal du livre, qui fait que vous avez ce sentiment de la perte des origines, hein, vous le dites, hein, peut-on à aussi long terme se remettre d'une perte des origines, d'une privation de soi-même qui peine à s'énoncer, tant elles entraînent de fantasmes et de suspicions ? L'Algérie circule dans mes veines à mon insu. Donc vous êtes quelqu'un qui est un peu pris en otage par une naissance, dont d'ailleurs vous n'avez même pas les agréments, puisque vous n'avez pas de souvenirs de là-bas. Et c'est l'écriture qui s'offre à vous pour affronter cet héritage.
Oui, voilà, quelquefois il y a ce sentiment que la langue ou la littérature ou la fiction, en l'occurrence, pour une très très large part, parce qu'on pourra peut-être revenir tout à l'heure sur... Je ne sais pas si on reviendra sur cette idée autour de l'autobiographie.
Une question que je vous réserve.
Bon, alors très bien, on est à Bordeaux, c'est le moment ou jamais d'en parler, je crois. Mais bien sûr que la littérature, la fiction peuvent être des manières de s'emparer de territoire. Je crois que ça a été évidemment pour moi une manière de fonder quelque chose, de créer un territoire sur lequel je pourrais poser le pied. Et dans cet exercice un peu compliqué qui consiste en effet à d'abord écrire, c'est-à-dire ouvrir un territoire pour dire ensuite, voyez, ce territoire existe, donc je peux poser le pied dessus. Je peux peupler cet endroit improbable que j'ai créé par littérairement.
Vous parlez d'un territoire virtuel, vous dites. La privation me fit chercher un territoire virtuel où je serais accepté, contribua pas à pas à la conduite de cette entreprise malaisée qui menait à son terme, prend le nom vulnérable et opérant de livre. Alors, tout d'un coup, ça veut dire que tout d'un coup aussi, vous vous exposez. Vous vous exposez. Est-ce que ça vous rend plus vulnérable ou plus forte ?
Alors je ne sais pas si c'est en tout cas dans ces termes que ça s'est jamais posé à moi, mais en tout cas en ce qui concerne la virtualité, c'est un lien très très ambigu autour de ça, parce que finalement on crée des histoires, et ces histoires, j'allais dire, sont plus vraies que nature. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est dans la virtualité ? Oui, puisqu'on est dans une forme d'invention, mais incontestablement ça ouvre des espaces qui sont des espaces extrêmement charnels, extrêmement concrets, extrêmement... Vous parliez tout à l'heure de Pavese, qui est un écrivain que j'ai découvert paradoxalement depuis pas très longtemps, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, avec Ungaretti aussi. Ce sont des gens qui m'ont ouvert des espaces de respiration. Et voilà, c'est vrai qu'écrire, c'est aussi une manière d'essayer de se dégager d'une concrétude, ou au contraire de reconquérir, finalement. Ça peut être la même chose, même si ça paraît exactement l'inverse. De reconquérir une concrétude, d'occuper... Je dis à un moment donné, c'est vrai que sans charpente au-dessus de la tête, c'est difficile de se plaindre que le toit fuit. Eh bien, peut-être que entrer en littérature ou écrire des livres, c'est aussi une manière de se créer une charpente au-dessus de la tête.
Et alors, est-ce qu'on a le sentiment, tout au long de votre livre, que finalement, votre enfance, votre adolescence, ça a été une façon de... Alors, vous employez le mot qui est assez étonnant, de stocker, c'est-à-dire d'accumuler des impressions, des souvenirs, des éléments, et qu'à partir de tout cela, vous pourriez faire cristalliser quelque chose. Et vous employez le mot cristalliser.
Oui.
Je pense que dans la main d'un écrivain, employer le mot cristallisation, c'est jamais anodin.
Non, pas tout à fait.
Vous avez lu Stendhal, ça fait aucun doute. Vous faites voyager votre miroir sur la grande route, là, comme ça, mais vous avez quand même accumulé, et on a l'impression dans ce livre que, somme toute, l'enfant que vous étiez se préparer déjà à être une adulte qui verrait l'enfant qu'elle était.
Mais il y a de ça, et c'est ça, quelque chose de très intimidant, de très impressionnant à considérer de manière un peu déjetée. C'est un auteur que j'aime énormément, qui est un auteur sudiste, finalement qu'on connaît beaucoup moins que Faulkner, qui s'appelle Flannery O'Connor, qui disait d'elle, c'est une femme qui est morte très jeune, qui a eu une vie finalement qui était tournée vers très peu de choses.
Elle aimait beaucoup ses pans.
Oui, elle avait une cohorte de pans, c'est vrai. C'est une femme qui vivait dans une autarcie forcée, en quelque sorte, puisqu'elle était très malade. Et elle a eu ces mots assez étonnants. Elle disait « Je suis une sorte de moulinette à histoire ». C'est-à-dire que tout ce qui lui arrivait était retranscrit perpétuellement en littérature. Et il est certain qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez moi. C'est-à-dire que ma perception de la vie est une perception, j'allais dire, écrite. Mais c'est ma réalité. C'est-à-dire que c'est pas une réalité qui est moindre. C'est pas une réalité qui est plus intellectuelle, paradoxalement. Elle est aussi concrète que la chair, la façon de traverser sensuellement le monde. Sauf que chez moi, tout passe en effet à travers cette moulinette-là. C'est-à-dire que, du plus loin que je puisse me le rappeler, il y a toujours eu cette médiation des mots. Et ça ne veut pas dire que je sois du côté de l'éloquence, parce que l'éloquence est encore un autre problème. Mais c'est cette façon de traduire le monde en texte, en roman, en écriture.
Alors vous appelez même le scribe, vous avez l'air de... Donc c'est ça, c'est pas l'orateur, c'est le scribe, donc cette façon de noter. Mais vous dites qu'il y a malgré tout, chez vous, un combat, qui est le combat du scribe et ce que vous appelez l'entité. Vous dites à un moment, se rebeller en moi la petite entité banalement humaine qui aspirait au bien-être, à la vie simple, et à la fois contenait le scribe prêt à 1000 sacrifices pour satisfaire son art. Donc, au bout du compte, satisfaire son art. Donc, c'est l'art avant tout, malgré tout.
Enfin, c'est l'art avant tout. Je ne suis pas persuadée qu'on choisisse non plus extrêmement consciemment cette...
On est un peu victime de son... Enfin, de son penchant.
Comment dirais-je ? Je pense que les gens qui sont 3-8 chez Ford ont des vies éventuellement plus lourdes que l'écrivain que je suis. Mais en tout cas, il y a une... Est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce que c'est quelque chose de délibéré? Bien sûr que non. Enfin, on est dans une aspiration intime qui fait que les daltoniens ne voient pas les couleurs exactement de la même manière. Moi, j'ai une façon d'appréhender la vie qui est du côté de l'écriture, d'autres ça va être la musique, d'autres ce sera la peinture. C'est vrai que j'ai ce prisme là qui était peut-être une protection à la base, j'en sais rien, peut-être une manière de ça, en tout cas ça a été un médium, et d'ailleurs le mot est pas tout à fait anodin parce que c'est une sensation que j'ai eue très souvent, c'est-à-dire cette espèce de chamanisme, de quasi-chamanisme qu'il y a dans le fait d'écrire des livres. C'est-à-dire qu'on a, on a le sentiment quelquefois d'être à l'écoute de courants, de choses comme ça qui traversent l'atmosphère, qui sont quasi magiques.
Est-ce que ce serait un reste justement de des racines familiales dans le Maghreb, où précisément, vous en parlez aussi. Alors, c'est croisé un peu dans votre famille, les superstitions du Médoc, où on voit un peu des saints, on en aurait presque des cailloux, et puis aussi ce sens du rituel qu'on trouve dans le Maghreb. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu l'héritière de ça?
Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cet ordre qui passe le cap d'une approche rationnelle ou intellectuelle stricto sensu, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a quelque chose de cet héritage à la fois étrange, un peu tellurique, un peu... je suis pas un écrivain, comment dirais-je, intellectuel dans ce sens-là. Ce qui m'arrive et que j'essaie de traduire, quand vous parliez tout à l'heure de l'intranquillité, ça me parlait très profondément, parce qu'on est un peu comme avec la baguette finalement du sourcier en main, c'est-à-dire que il y a cette quête de la veine, il y a des choses comme ça qui déferlent, qu'on va devoir capter, dompter, mettre en forme, voilà, c'est en ce sens qu'il y a un travail. Il y a quelque chose comme ça très très physique avec l'écriture. J'ai toujours dit que c'était un boulot très très physique,
oui, parce que vous d'écrire des livres. Des ouvriers de Ford, un écrivain, enfin moi ça me choque toujours quand on a l'air de dire qu'un écrivain c'est quelqu'un qui ne souffre pas et qui fait ça tranquillement. Enfin, quand on lit votre livre, on a le sentiment quand même que voilà, il y a quand même, on n'a pas les cales dans les mains, mais il y a quand même le corps
dites,
souffre.
Parce que je vous montrerai bien.
Encore, peut-être que vous faites ça à la truelle, mais bon, j'ai pas l'impression. Mais enfin, moi je me souviens de Philippe Roth, une phrase de Philippe Roth. Alors je l'ai pas exactement en tête, mais qui disait que vous mettez un écrivain dans une famille et a priori il va tout détruire autour de lui. Et j'ai plutôt l'impression qu'avec vous, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous auriez plutôt tendance à vouloir reconstruire ce qui s'effondre comme un château de sable. C'est-à-dire que vous cimentez autant que vous pouvez une famille qui se désagrège et qui n'a plus grand-chose pour tenir.
Mais alors David, l'étonnant, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, d'une certaine manière. Et quelquefois, même les deux peuvent aller ensemble. C'est-à-dire que le travail de destruction qui est à l'œuvre en littérature, c'est-à-dire cette espèce de déconstruction du réel, de violence qu'on peut appliquer sur le réel, parce qu'on le radiographie, parce qu'on on l'aspire et on le recrache d'une certaine manière, avec évidemment le passage dans ce prisme extrêmement virulent qui est le regard intime qu'on porte là-dessus. Mais le fait de déconstruire et de violenter finalement les formes qui s'offrent à nous et qu'on va retranscrire ne signifie pas, paradoxalement, justement dans la recomposition qui est à l'œuvre dans l'écriture d'un livre, on peut faire les deux choses à la fois. On peut à la fois casser, exploser et œuvrer à une reconstruction profonde qui serait autre.
Parce que quand vous parlez de votre livre, vous le dites même quasiment, hein, c'est votre immersion dans les mots, ça tient à la fois du refuge, donc c'est un endroit où vous vous protégez, mais c'est aussi un enfer. Donc vous êtes en permanence dans ce mouvement double qui est « je me protège et en même temps je me détruis aussi ».
Je ne crois pas qu'un écrivain se protège. Je crois qu'il essaie de trouver un cadre, il essaie de trouver un monde où pouvoir s'exprimer. Mais c'est très étonnant cette question-là. Et elle est subtile parce que c'est vrai, voilà, je ne suis pas persuadée qu'on se protège jamais en littérature. Je crois que on voudrait. On aimerait bien. On fait ça. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'une nécessité, en tout cas, j'espère. Il y a quelque chose d'une nécessité qui fait qu'on va aller dans cet endroit-là, qui est pas un endroit si confortable dans le fond. L'endroit littéraire est pas un endroit si confortable. Mais en même temps, c'est le seul où on puisse aller. Donc, on y va. Et une fois qu'on y est, on s'en débrouille. Il y a quelque chose. C'est pour ça que, quand tout à l'heure vous parliez du travail, de la lutte, c'est vrai que physiquement, concrètement, quand on, je dis en souriant tout à l'heure que l'écrivain est un terrassier, oui, il y a de ça. Il y a quand même de ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout manier la truelle, non. Mais en revanche, c'est soulever des pierres, c'est-à-dire c'est brasser de la matière. Être dans un rapport assez violenté avec les choses et quelquefois de ce combat, de ces tensions, le paradoxe veut qu'on puisse accoucher de quelque chose qui peut paraître très paisible, d'une quelque chose qui puisse être du côté de la réconciliation. Mais enfin, c'est quand même toujours le résultat d'un corps à corps qui est pas exactement anodin.
Alors, vous parlez à un moment donné, mais très rapidement, de la dyslexie de votre père, qui était quelqu'un qui était un peu fâché avec les mots. Et est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez régulièrement, du fait que lui, somme toute sa vie, avait l'air d'être un peu illisible, et que vous, de votre côté, lui succédant, vous tentez de rendre un peu lisible tous ces mots qu'il a accumulés, dont il ne savait pas faire grand-chose? Ou est-ce que je m'égare sur un terrain psychanalytique absolument vaseux?
Non, ça m'intéresse au contraire. Il y a quelque chose de ça. En même temps, je suis pas dans la rédemption, ce sens que je n'essaie pas de rattraper quelque chose. Je n'ai et certainement pas en plus quelque chose qui serait une chose personnelle. C'est-à-dire que je ne suis pas dans je vais rendre hommage à mon père stricto sensu, ou je vais rattraper quelque chose. En revanche, le rapport que vous énoncez aux mots, éventuellement à une cassure, m'intéresse toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours été attirée. Ça a pu m'arriver souvent de travailler avec des gens, par exemple, qui n'ont pas une orthographe parfaite. Et je ne veux pas dire que je pense que l'orthographe soit une chose annexe. Bien sûr qu'en littérature, c'est quelque chose d'absolument central. Il y aurait une démagogie immense à dire le contraire. C'est pas du tout ça. Mais quelquefois, travailler avec des gens qui n'ont pas votre langue ou qui n'ont pas votre orthographe, ça va vous obliger à rebondir dans des dimensions complètement inattendues. C'est-à-dire que vous allez devoir repartir dans des racines beaucoup plus primitives, sonores, phonétiques. Qui sont d'une certaine manière l'essence même de la poésie. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant pour moi. C'est-à-dire que travailler avec des gens qui n'ont pas une orthographe ou qui souffrent de dyslexie, je vais faire un pont qui paraît peut-être un peu exagéré, mais qui me paraît au contraire tout à fait judicieux. Quand Beckett raconte que le fait de passer d'une langue à l'autre va lui permettre de se dépoussiérer, de repenser autrement à sa propre manière d'être en littérature, je dirais que quand vous me parlez de la dyslexie de mon père, il y a un peu de ça. Voilà, je suis pas rebutée du tout par les gens qui n'ont pas mon langage. Alors ça, encore une fois, c'est pas. Je suis pas en train de tenir des propos démagogiques. Évidemment que des gens qui vont pas avoir mon langage et qui vont bêtifier ou qui seront, c'est pas ça forcément qui va me attire mon attention. Ce qui va être assez fascinant pour moi, c'est comment, quelquefois, dans l'abandon de l'immédiate correction, on noue avec une essence poétique, linguistique. Voilà, bon, je Ça m'intéresse beaucoup, ce côté primitif.
C'est vrai qu'on ne va pas non plus accabler les gens avec ce genre de débats qui sont, à mon avis, passionnants, mais il y a aussi la lecture. C'est-à-dire que quand on découvre la solitude de la fleur blanche, on découvre aussi une petite fille qui est une lectrice effrénée. Le dites vous-même, elle en est à lire les boîtes de médicaments dans une maison où il semblerait qu'il n'y ait pas énormément de livres.
Mais il y avait énormément de boîtes de médicaments.
Voilà. Et que finalement, vous, c'est une sorte de quête effrénée de lecture jusqu'à une épiphanie, enfin une apparition. Alors vous, c'est Célan, Paul Célan.
Oui.
Et où il est question, alors la fleur blanche, c'est pas une fleur blanche, c'est une tulipe, là. Hein. Donc c'est la phrase qui va tout déclencher. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que ce qui est obscur peut prendre sens. Hein, que vous pourrez capturer quelque chose avec la musicalité des mots. Voilà. Donc, racontez-nous un peu comment vous êtes né à la littérature. C'est ça aussi moi, que je trouve passionnant dans le livre, c'est tout d'un coup de se dire, en lisant un auteur, ça y est, j'ai découvert mon territoire, mon intimité. Et puis, après, j'aimerais que vous nous racontiez aussi, ce qui est très étonnant, c'est quand vous parlez des membres de votre famille, notamment des hommes, vous les comparez à des écrivains. C'est-à-dire que l'un va ressembler à Hemingway ou à Beckett. Qu'est-ce qui fait que les gens qui vous sont proches ressemblent à des écrivains et non pas à des héros de cinéma, dont on ne parle pas du tout d'ailleurs dans le livre?
Est-ce qu'on pourrait faire une petite parenthèse ou c'est trop tôt?
Parce que
oui, alors je peut-être pour parler de... Parce que évidemment c'est une question qui se pose et que j'ai envie qu'on aborde ici, à Bordeaux, dans ma ville, ce qui est évidemment ce qui a une connotation qui est toute particulière. C'est-à-dire autour de l'autobiographie ou pas. Parce que, évidemment,
en fait, je voulais commencer par là au début, ouais. Puis je me suis dit, bon, c'est un peu
brutal. Vous êtes découragé.
Non, parce qu'il y a quand même écrit, tout le monde va écrire roman sur ce livre.
Ouais.
C'est quand même un parti pris. Alors, est-ce que c'est l'éditeur qui l'a choisi, etc. Pourquoi avoir choisi d'écrire roman, alors d'entrée, assez vite, on voit que c'est Anne Liseroux qui parle.
Mais alors, en même temps,
est-ce que c'est une autobiographie ou est-ce que le fait que ce soit roman dit, tout d'un coup, j'accepte de devenir un personnage de fiction et donc de prendre les libertés que m'autorise la fiction, ou j'accepte de jouer avec le jeu très dangereux de l'autobiographie?
Mais voilà, j'ai envie de répondre sur ça, et particulièrement évidemment ici, à Bordeaux, donc encore une fois, où un certain nombre d'entre vous éventuellement savent très bien qu'évidemment dans le livre, il va y avoir, on peut relever des éléments objectifs qui ont été des éléments personnels de ma vie. Maintenant, est-ce que c'est ça ce qui fait une autobiographie? Est-ce que c'est ça qui fait une autofiction? Sincèrement, je ne pense pas. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, vous recevez, le clin d'œil est amusant, vous recevez Michon demain, Pierre Michon. Est-ce que, bel et bien, Pierre Michon, dans Les Vies minuscules, s'est jeté sur Marianne comme un porc à la glandée, comme il l'a raconté? Probablement oui. Est-ce que ça veut dire que Les Vies minuscules sont une autobiographie? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'autobiographie ou l'autofiction se tiennent là, c'est-à-dire dans le fait qu'il y ait des éléments objectifs dont vous pouvez éventuellement avoir connaissance, et donc être un peu attendu autour de ça, sur ça.
Vous avez le sentiment d'être attendu sur ça ou pas?
Que oui,
des gens
bien
ont
sûr.
Lu le livre en disant
bien
Anne Liseroux déballe.
Bien sûr qu'éventuellement... En tout cas, c'est une question qui peut se poser. Oui. Maintenant, est-ce que légitimement, l'étiquette roman peut être celle qui apparaît sur la couverture? Oui. Et bien sûr que oui. C'est-à-dire que il y aurait une très grande naïveté à penser que l'autobiographie, c'est alors on va retrouver des éléments personnels ou pas. Je pourrais vous citer 10 livres qui ne sont pas de cette catégorie, où quand on connaît les gens, on peut pointer des éléments qui seraient des éléments objectifs. La question n'est pas là finalement. La question c'est quel est ce qui se passe littérairement. Quelle est l'intention? C'est pas seulement l'intention, mais quel est le résultat? Quel est le travail de distanciation qui a pu être effectué en littérature pour ce qui est donné à lire? Je dois dire que ce livre-là, j'avais commencé de l'écrire avec un personnage qui était un personnage à la troisième personne du singulier, qui s'appelait même... Vous allez avoir un scoop. Ce personnage s'appelait Claire Kembs. J'avais choisi le nom Kembs parce que c'est une petite ville d'Alsace où il y a un barrage hydroélectrique. Voilà. Alors après, tout à l'heure, vous m'interrogez sur les rebondissements psychanalytiques qu'on peut y donner. On pourrait réfléchir à ça.
C'est vrai que l'hydro électrique dans la psychanalyse est une voie peu explorée.
Mais le barrage.
Mais David, alors le barrage. Hein,
le barrage, voilà, il peut être contre le Pacifique, il peut être contre un certain nombre de choses. Mais je travaille ce livre-là comme ça. Et puis tout d'un coup, je me dis non. J'ai envie de parler au jeu, à la première personne du singulier, parce que j'ai envie d'occuper une voix qui serait pas une voix personnelle, mais qui serait, comment dirais-je, un jeu indéterminé. Voilà, ça c'est une notion qui me paraît cadrée assez bien avec le contenu du livre, c'est-à-dire c'est pas jeu Anne-Lise Roux, c'est jeu qui s'empare d'une voix pour essayer d'occuper un espace littéraire qui est un infra, qui a été assez peu décrit et qui a été assez peu entendu, qui concerne 1 million de personnes qui viserait à être moins dans une description absolument manichéenne de ce qui a pu se passer.
Le fait de dire « je », ça vous permet justement de prendre à la fois énormément de distance et d'être au cœur du problème.
C'est-à-dire oui, que... c'était aussi une façon de s'emparer, voilà, de ratifier quelque chose de puissant, d'intime. Mais c'est pas parce que c'est intime que c'est personnel, voilà.
Et vous avez le sentiment, alors je sais pas si c'est le mot, mais à la fois, quelle est votre entreprise en précisément abordant ce sujet qui est les pieds noirs, qui sont très absents de notre littérature quand même, qui pèsent encore. Alors vous dites qu'on commence à enfin en pouvoir en parler, mais bon, je cherche des œuvres littéraires intéressantes sur ce sujet-là, je n'en trouve pas énormément.
On nous en demande.
Est-ce que c'est l'arrière-fond qui vous dit je veux évoquer ça. Je veux évoquer ça parce que ça me touche au plus près, parce que c'est ma famille qui est dedans et que je sais la souffrance que ça apporte.
Alors, c'est pas tant parce que c'est ma famille. Je pense que c'est le fait que ce soit ma famille, que j'en sois issue, qui, comme chez Prège-Lecage, a fait que j'ai pu peut-être me commettre, finalement, dans ce sens-là. Mais ça n'était pas parce que c'est ma famille que je vais raconter. Encore une fois, si j'avais envie de faire une autobiographie, j'ai un certain nombre de sujets. Je me suis dit quelquefois, par exemple, que... Je pourrais être tentée un jour peut-être par une autofiction autour de la souffrance physique ou des troubles mais c'était pas le cas ici et c'est pas tant pour parler de ma famille que pour essayer de restituer une voix qui est une voix étouffée finalement et les notions d'exil, par exemple, sont toujours d'absence de place, de difficulté à savoir où se situer par absence de racines. Moi, les déracinés m'ont toujours intéressé. Mais Pessoa, par exemple, d'une certaine manière, qui quitte pas Lisbonne jamais, décrit ça d'une autre manière, c'est-à-dire dans l'excès inverse, dans cette espèce de tentative de ne plus bouger et d'éclater en hétéronyme à la fois. Il y a des tas de manières finalement d'occuper ces places. Moi, raconter l'histoire de ma famille, c'est pas quelque chose que je pourrais faire finalement. Je suis beaucoup trop... Enfin, ça serait beaucoup trop intimidant. Et je pense pas que la littérature soit le lieu de ces choses-là. Pour un certain nombre de raisons. Pour des raisons de pudeur. Pour des raisons de... Mais en revanche... voilà, c'est vrai que les pieds noirs... Est-ce que la littérature les a décrits? Non, très très peu.
Vous, ce que vous évoquez, c'est quand même une expression assez, assez forte, qui est le trou noir mental appelé l'Algérie. Vous dites qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça, il y a un trou noir. Et on a le sentiment que vous voulez aussi vous accrocher à ça, et de dire que, somme toute, vous auriez presque des revendications. Mais c'est presque une revendication à la mélancolie, c'est-à-dire... Vous dites pouvoir partager la mélancolie d'une terre perdue. Pour vous, ça serait important parce que vous ne l'avez pas, mais en même temps... Vous évoquez cette mélancolie-là chez ceux que vous connaissez. Vous évoquez le fait que ces gens-là portent avec eux une culpabilité en permanence et une honte. Et que c'est un des grands sujets du livre, c'est quand même la honte, quoi. Comment faire pour porter une honte dont on ne se sent pas totalement responsable ? C'est-à-dire, on se considère comme des honteux. Et puis, jusqu'à un moment, vous disiez même une chose assez incroyable. Je vivais dans la hantise que nous ayons contribué par-dessus le marché à la perte des Juifs du continent. C'est ce sentiment de culpabilité qui vous poursuit tellement loin qu'on en est presque prêt à être coupable pour d'autres choses. Alors, expliquez-nous un peu cette...
Mais alors, une revendication, non, certainement pas, parce que... Encore une fois, quand on écrit un livre, finalement, on part pas en se disant... En tout cas, moi, quand j'écris un livre, je suis pas... Je ne défends pas une thèse, par exemple. Vous voyez, je n'ai pas de leçons à donner, ou je n'ai pas de voix à indiquer avec sa brupto, en expliquant à tout le monde comment il faut penser. C'est pas de cet ordre-là du tout. Moi, j'avais à cœur de raconter des histoires, d'abord, c'est-à-dire me servir du truchement d'histoire
Mais pour raconter la honte, hein, c'est vraiment la honte, parce qu'à un moment vous dites une phrase assez terrible: mon père demeura longtemps la rage au cœur, moins par nostalgie de la chemise qu'il avait perdue dans les âbles rêveurs des ouèdes que par la honte qu'il se voyait collée au front dans le regard des autres.
Mais parce qu'il n'y a pas eu, en effet, il n'y a pas eu d'histoire autour. La pied-noir-dise, j'allais dire, est quelque chose qui a été finalement tellement mal décrit. Ça fait 50 ans, on est à une distance quand même qui commence à être respectable de ces histoires-là. On pense, je ne sais pas, les cinéastes ou les littérateurs américains ne se sont pas gênés pour parler de la Corée, pour parler du Vietnam, pour raconter tout l'infra, toute la complexité qu'il y a pu avoir à cette histoire-là. En France, les pieds noirs sont passés très longtemps, passent encore, je le crains, unanimement ou presque, pour des gens qui sont des gros colons de l'OAS, qui cassent de l'arabe dès qu'ils ont un moment libre. Et c'est souvent dans ce rapport extrêmement manichéen que les choses sont balancées. Et c'est très très gênant parce que d'abord ça n'est pas ça. Et ensuite... littérairement, c'est vrai qu'il y a ce gouffre. Vous parlez de la honte, c'est pas, enfin, oui, c'était quelque chose de majeur, la honte des pieds noirs, mais c'est une honte qui ressortit aussi au fait que les gens ne les connaissaient pas, n'ont pas su finalement ce qui se passait. Il serait quand même temps qu'on raconte un peu d'une manière autrement que primaire que ces gens étaient plus souvent proches. Je vais faire une petite digression autour d'une référence qui m'a été rapportée. Je suis passé sur, j'ai eu une émission de radio il y a quelque temps et j'ai été contactée par un homme qui fait une thèse, bon, et qui me parlait de Germaine Tillon. Germaine Tillon est donc un personnage assez magnifique, qui a été une grande résistante, une ethnologue. C'est quelqu'un qui a milité très profondément pour l'Algérie indépendante. C'est une grande figure, amie de Camus, qui a milité contre la torture en Algérie. Bon, et cette femme-là parle des pieds noirs en disant c'était des migrants, elle les appelle les migrants d'Europe. Et là, tout d'un coup, il y a une révolution éventuelle qui peut être conduite, parce que ça devient pas forcément ces personnages stéréotypés, hableurs, sur deux, dans la détestation absolument du Maghreb, parce qu'ils seraient dans une perte irrémédiable, tous d'ultra, de droite. Je veux dire, enfin, c'était évidemment tellement plus mélangé que ça, tellement plus je veux dire, j'espère que la littérature va enfin dire ces choses-là, c'est-à-dire dire que les histoires étaient quelquefois plus près de Steinbeck et des raisins de la colère, que ces gens-là, c'était pas seulement des appelés qui rentraient de la guerre et qui avaient été traumatisés, c'était des gens qui avaient ce traumatisme extrêmement compliqué de rentrer d'un pays vers un pays qui était censé être le leur, donc la France, ils quittaient le Maghreb, et on leur disait que le Maghreb n'était plus leur pays. Ils rentraient vers la terre, entre guillemets, mère, dans un pays qui est la France, qui était leur pays, mais qui justement n'était pas leur terre nourricière, leur terre charnelle, physique. Donc ils rentraient vers une étrangeté totale, et ce sont des gens qui se sont trouvés pris entre le marteau et l'enclume souvent.
Mais vous parlez, c'est Gaston Defer dont vous parlez à un moment, c'est ça?
Oui, absolument.
Mais sans le citer,
oui.
D'ailleurs, curieusement, je ne sais pas, pour ne pas déplaire. Hein, c'est...
Oh non, alors là, on peut très bien le citer.
Qui est un homme généreux, un résistant, mais quand il les voit arriver, qu'il leur dit?
Qu'est-ce qui se passe? Il édicte il explique que les migrants doivent pas s'installer à Marseille, parce que il faut pas. Enfin, il y a des titres de journaux qui disent ça, qui disent les migrants, ces gens étaient sans racines, bon ben ils vont pas quand même venir chercher voler le travail des bons Marseillais, des gens de la ville, ils ont qu'à aller s'installer ailleurs, et voilà, enfin j'ai toujours dit que c'était un peu comme quand les clodos sont dans une ville un peu chic, on leur dit écoutez vous avez la scrofulose et vous avez des moignons, ben ça sera plus joli d'aller les exposer ailleurs, bon faut aimer.
Et alors, vous, comment votre famille échoue, enfin arrive, parce que ça, on ne le sait pas trop quand même, qu'est-ce qui fait qu'ils sont au Médoc, dans le Médoc particulièrement, dans le Médoc, dans une région qui, même pour un Aquitain, pour un Girondin, qui a un statut un peu particulier, c'est-à-dire, comme dirait Eric Holder, de loin, on dirait une île. Hein, donc, alors, il y a quand même cette double chose qui est,
oui,
on est pieds noirs, on est migrants,
mais...
et on arrive dans un endroit qui est lui-même une sorte de territoire à part dans cette zone. Alors, c'est ça aussi qui vous a intéressé dans le roman, de confronter des gens qui sont déracinés dans un endroit où ils ne peuvent pas prendre racine et où c'est quasiment impossible de prendre racine. Vous dites à un moment, quand on vient de 5 km, d'un village de 5 km, on est déjà un étranger. Alors, quand un intrus, alors quand on vient d'au-delà de la mer, c'est encore plus compliqué. Comment vous expliquez ce rapport alors avec ce Médoc, qui est lui aussi très caricaturé, à Bordeaux notamment, hein? Et vous avez des passages qui sont...
C'est-à-dire que vous l'avez trouvé caricaturé sous ma plume?
Non, pas sous votre plume, justement. Mais le bordelais est souvent apte à caricaturer. Je ne vais pas employer de vilains mots,
mais
justement,
vrai,
le pied noir est caricaturé, le médocain est caricaturé, le télescopage des deux, est-ce que ça vous a intéressé? Ou est-ce que, somme toute, c'est fortuit?
Non, c'est pas fortuit du tout. Je veux dire, le Médoc, bon, c'est une terre qui est une terre rude, qui est une terre qui est belle. Mais enfin, c'est donc voilà, c'est la vigne. Je serais tentée de le comparer un peu à la Toscane pour diverses raisons. C'est-à-dire qu'il y a une richesse flagrante d'un côté, et puis il y a une vie assez rude, agricole, ouvrière de l'autre côté. Bon, c'est quelque chose que j'observerai très tôt. Enfant, je vais être à la fois submergée par la beauté absolue qu'il y a dans cette terre. J'ai coutume de dire que c'est un peu mon comté faulknerien, c'est-à-dire que il y a un monde quand même dans le Médoc. Il y a évidemment, c'est aussi la province décrite par Mauriac, mais avant tout, c'est une terre extrêmement âpre, rude, donc avec des disparités dans la richesse.
Vous parlez d'enfer quand même, plusieurs fois. Il y a un côté enfer.
Bah, c'est un enfer que j'ai beaucoup aimé,
voilà.
En
mais
même
un
temps.
Enfer, et vous appelez ça un bel enfer.
On peut aimer ça.
Et qui rappelle
l'enfer.
Le pays mort, parce que vous employez souvent le terme de mort, et c'est assez amusant pour un livre qui parle énormément de mort et morté par ailleurs. C'est quand même
oui.
Le pays mort. Et en même temps, vous, alors, avec une sorte de répulsion parfois, mais la hantise que tout d'un coup on fasse une route, une contournante qui détruise ce pays.
Ah, je détesterais ça, oui. Je détesterais que le Médoc soit éventré. Mais on parlait tout à l'heure de Paul Celan. Alors, Paul Celan avait une amoureuse, enfin, il avait plusieurs amoureuses, mais il avait donc sa femme et une autre. Il y avait donc Gilles de l'Étrange et un écrivain merveilleux qui l'a accompagné dans sa vie, qui s'appelait donc Ingeborg Bachmann. Et elle dit à propos de l'Autriche, et moi je me demande si je pourrais pas dire un peu ça pour le Médoc, c'est-à-dire qu'elle dit l'Autriche, c'était un pays presque de. Enfin, c'est la pire comédie qui puisse exister, et à la fois c'est une terre littéraire dont elle avait honte, qu'elle a rejetée en littérature. Moi, le Médoc, il y a un peu quelque chose de ce rapport, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de rudimentaire, de violent, de dépassé, d'âpre, de xénophobe, il y a quelque chose du sud faulknerien en littérature, oui. Donc, rapporter une chose à l'autre, non, ça n'a rien de fortuit. C'est vrai que arriver en Médoc, quand on est basané, quand on est d'une religion autre, ou quand on a un peu d'accent, c'était quand même pas vraiment le pied. Hein.
Vous dites un moment, l'enfer en Médoc avait nom chômage, gel, canicule ou bien gnôle. C'est une façon de résumer.
Bah oui, il y a un peu
que
tout
c'est
ça. Hein.
L'enfer est à portée de voix. Enfin, il est difficile de ne pas le croiser. Surtout vous, qui évoluiez pas loin des grands châteaux, mais qui avez connu ça aussi.
Oui, il y a quelque chose d'extrêmement âpre dans la vie ouvrière. Et des étrangers déboulant là-dedans, des étrangers qui étaient des étrangers français. Voilà, enfin, il y a tout un territoire extrêmement romanesque dans le Médoc.
Et alors justement, le romanesque s'empare à un moment plus dans le livre. Il y a un épisode assez long. Ou alors, tout d'un coup, les pinards ne sont plus les derniers arrivés puisqu'il y a des Arabes qui arrivent. C'est-à-dire que ceux qui... Alors, des vrais de vrais. Et alors, ceux-là,
les
autres ont eu du mal.
Mais
alors, ceux-là, il y a l'exemple assez brutal de la famille Chemac. Alors, vous vous dites, ils avaient hérité d'une mise au ban qui semblait nourrie de raisons concurrentes et très peu conciliables en apparence, qui accouchait à terme d'une fermeture et d'une solitude analogue. Vous renvoyez quand même ces Arabes qui débarquent aussi, mais eux, presque comme un échec aussi, à quelque chose qui a une analogie avec votre débarquement, vous aussi.
Mais c'est que la question de l'altérité, voilà, et qu'est-ce que c'est qu'être autre ? Voilà, qu'est-ce que c'était que d'être autre ?
Sauf que ça se termine dans la violence, curieusement. C'est-à-dire que vous racontez des scènes avec la fille qui se suicide carrément parce qu'elle ne supporte plus qu'on lui impose ça, et qu'on a le sentiment que les pieds noirs, enfin les vôtres en tout cas, la violence a été plutôt retournée contre eux-mêmes, ça a été plutôt une sorte de souffrance intérieure. Que la colère s'est pas dirigée de la même façon.
Peut-être, mais au fond, finalement, voilà, c'est ça, c'est au final, les choses ont été équivalentes. Et voilà, par exemple, l'apport de la fiction me touche autour de ça, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est deux familles que je mets en parallèle, cette famille arabe, arrivé en France, qui va pas trouver ses marques, avec la jeune Yasmine qui va peiner à s'intégrer parce que elle aura pas envie d'être voilée, elle aura envie de voir des garçons, elle aura un père extrêmement extrêmement croyant qu'elle respectera énormément, mais elle sera assignée à surveillance par un frère aîné qui n'aura pas assimilé les choses de la même manière qu'elle, et sa vie, son existence sera brisée de la même façon que l'existence de ces pieds noirs mis au banc, souvent méprisés, incompris, sera mise au banc, oui.
Alors, ce qui est étonnant dans le livre, moi, ce que j'aime particulièrement dans le livre, alors on va dire que c'est peut-être un tropisme un peu morbide, mais je pense que la littérature permet ce genre de choses. Il y a beaucoup de cimetières dans votre livre, beaucoup de morts. C'est parmi, à mon avis, les plus belles scènes du livre. Et il semblerait que jusque dans les cimetières, qui peut être un endroit d'apaisement, on ne trouve pas non plus de réconciliation dans le cimetière. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui fait que dans ce roman, il y a autant de cimetières ?
Alors, vous parliez de la psychanalyse tout à l'heure. La mort, la sexualité, la création, les profondeurs marécageuses, éventuellement, l'énigme. Tout ça, ce sont des thèmes qui bien sûr comptent en littérature. C'est-à-dire que dans quoi on puise, dans des choses qui sont, enfin, je veux dire, c'est pas toujours dans une transparence ou dans quelque chose de... Mais ça peut être bien sûr qu'il y a beaucoup de cimetières, mais ça peut être extrêmement vivant, les cimetières.
Ah oui, non, mais c'est pas comme un lieu,
franchement,
c'est pas de la morbidité, je veux dire, mais qui est un endroit où s'expriment des tas de choses, manifestement.
Parce que c'est aussi la mémoire, voilà. C'est aussi les cimetières.
C'est pas nécessairement un endroit de calme, ce que je veux dire, ni pour la petite fille qui y va et qui peut être parfois assez agitée dans les cimetières.
Ouais, elle a envie de tout casser.
Pour les choses qu'elle voit apparaître, et l'apparition d'une pierre tombale, tout d'un coup, lui révèle quelque chose qui lui revient. Donc, alors, ça nous sort un peu de cette habitude qu'on a dans les romans, de faire que le cimetière est un endroit où il ne se passe quasiment rien. Ou alors une... Mais là, tout d'un coup, c'est une sorte presque de lieu de renaissance et en même temps un lieu de souffrance.
Mais c'est vrai que c'est... Enfin, au fond, quand on y pense... c'est jamais neutre. Même, je parlais avec une amie irlandaise il y a quelques jours, qui me disait bon, voilà, en Irlande, les tombes étaient grandes en proportion de l'importance des familles au 19e. Ensuite, justement, par réaction autour de ça, l'intelligentsia a eu envie de quasiment donner, par exemple, son corps à la science, pas faire de pierres tombales trop importantes. Beaucoup de choses ethnologiquement, je veux dire, s'organise autour des cimetières, de la mort. De, évidemment, ça peut jeter un froid dans un dîner, mais c'est toujours intéressant de se demander, par exemple, où est-ce qu'on a envie de reposer, sous quelle forme. C'est-à-dire, est-ce que ça a l'air très morbide, mais ce sont des questions très charnelles, enfin extrêmement.
Vous le faites aussi de façon amusante, en imaginant que dans le cimetière de Margot. Oui. À côté des dimanches châteaux, oui, reposent des hommes dévastés par la cirrhose du foie en ayant bu des vins
de
épouvantables pendant des années.
Ouais, vous imaginez la chance.
Ils reposent dans la terre, dans une terre absolument merveilleuse voilà, que tout le monde leur envie.
Château,
il y a même
Margot,
une expression que j'ai oubliée où on les envie presque. Les salauds
de mort.
Salauds de mort, ouais. Enfin, ils ont vraiment la terre royale. Bah, il y a aussi cette dimension-là qui est un voilà. peu voilà, une sorte de revanche.
Le mort, vous imaginez le prix au mètre carré pour Château Margaux. Donc il y a des gens extrêmement modestes qui ont des concessions. Espérons que jamais ça sera rétrocédé pour planter.
D'accord. Alors, non, il y a vraiment, c'est un livre d'une densité assez incroyable et curieusement, bon, j'ai encore des tas de questions à poser, mais on va pas y passer la soirée. Il y a des tas de sujets qui n'ont pas été abordés. Les animaux, notamment, vous avez un rapport aux animaux qui est assez étonnant. Moi, je trouvais que c'était un petit côté un peu Saint-François d'Assise chez vous. L'amour des plantes et des animaux qui est vraiment touchant et qui mériterait qu'on en parle, mais j'avais même une citation à dire. Mais je la réserve aux gens, page 161, je vous la recommande.
Mais moi, je veux bien dire un mot quand même par rapport à ça. Parce que...
Alors, si vous voulez lancer sur les animaux, les animaux et les bébés, ça attire beaucoup de monde dans les livres.
Bah,
c'est
moi,
un
les
de
bébés,
mes arguments, notamment.
Pas
pour...
forcément, mais les animaux, enfin les bébés.
Bêtes
aussi,
à poil et à plumes.
Les bêtes à poil.
Bêtes à poil et à plumes, vous dites. Hein. Ça commence
si
comme
vous
ça.
Le dites. Oui, oui, d'accord, oui, peut-être, oui. Mais bon, le rapport aux animaux, c'est pas un truc ne oh, les gentils animaux qui sont mignons. C'est peut-être l'intégration dans une création qui serait une création totalement continue. Voilà, c'est-à-dire que il y a quelque chose de moniste chez moi. Je pense que nous sommes un, très très profondément. C'est-à-dire que la création est une. Donc à partir du moment où on est dans cette sorte de continuité, eh bien, tout ce qui agresse la chaîne à quelque moment que ce soit nous agresse tous.
D'accord, donc vous avez un côté un peu Noé chez vous, c'est rien.
Certainement pas Noé.
De l'arche.
Ah,
non, on parlait d'arche quand même. Quand je vois l'arche, je pense Noé.
Vous savez que Noé, il y a une chose qui m'a toujours dérangée, non pas du tout qu'il soit créateur du vin, mais un de mes amis de Kinshasa m'a expliqué qu'il était le père de Cham, qui soi-disant voue les hommes noirs à une couleur de peau foncée parce qu'il serait dans la culpabilité. Alors là, c'est pour ça que Noé m'est devenu très, très antipathique.
Alors juste une chose, parce qu'après vous allez peut-être vouloir poser des questions. Il y a quand même un thème qui paraît étonnamment absent, mais j'ai peut-être mal lu, hein, j'ai lu que trois fois, c'est l'amour, somme toute. Il y a beaucoup de l'amour du père, enfin d'un amour qu'on aimerait pour le père, tout ça, mais le roman d'amour reste peut-être encore à écrire.
Mais bon, enfin, d'abord c'est une question de pudeur, c'est-à-dire que
C'est plus facile de parler de la mort que de l'amour.
Non, non, c'est pas du tout ça. Simplement, c'était pas le moment où j'en avais pas l'envie, où je réserve ça à un périmètre qui, pour le moment, est totalement intime ou que j'ai pas envie de partager. Mais par exemple, à une époque, je me suis... Bon, j'avais des nouvelles en Gésine et je me disais que je me serais peut-être essayée à la pornographie, qui est une notion qui m'intéresse éventuellement, mais simplement, j'y suis peut-être pas prête.
D'accord.
Ou voilà.
J'ai bien fait de garder cette question pour la fin. Donc, alors on peut demander si donc il y aura une revanche de la fleur blanche, sans doute pas, mais après c'est la solitude.
La fleur blanche, le retour.
Le retour de la fleur blanche. Ah. Est-ce que juste pour un peu évoquer, c'est quand même, alors vous avez écrit quatre livres, au moins quatre livres, et puis participé après à pas mal de publications. qui était singulière, notamment ce qu'on appelle des romans noirs, que j'ai un peu de mal avec ce terme. Est-ce qu'avec La solitude de la fleur blanche, vous amorcez quelque chose de différent? Ou est-ce que vous l'inscrivez dans une continuité? Vous allez revenir vers de la pure fiction? Ou est-ce que vous en êtes déjà en train de poser la question? Est-ce que vous êtes en train de travailler à autre chose? Ou est-ce que c'est vraiment une question qu'il ne faut pas poser?
Non, non, c'est une question qu'on peut... Vous savez, il n'y a aucune question qu'on ne puisse poser. C'est toujours bien de poser des questions. Après, on y répond comme on peut, ou plus ou moins bien, ou on n'y répond pas. Mais c'est toujours bien, au contraire, de poser des questions. Bien sûr, je travaille... je suis sur quelque chose d'autre. De la fiction, absolument. La noirceur des livres. J'ai quand même coutume de dire depuis quelques années maintenant que, au fond, on parle de. Si on parle d'Antoine Volodine, je fais toujours cet exemple, je dis toujours cet exemple. Volodine a quitté la science-fiction parce qu'il s'est mis à publier. À part, il était dans une collection de science-fiction, puis il s'est mis à publier dans autre chose. Mais il a continué d'écrire des livres d'Antoine Volodine. Et finalement, il n'y avait pas une vraie différence. Moi, je n'ai jamais écrit de roman policier.
Bon, j'ai pas le sentiment non plus, c'est pour ça.
Voilà.
Mais,
j'étais dans la série noire.
Mais c'est dans la fiction, malgré tout.
Et j'étais contente en plus d'y être. Maintenant, j'ai trouvé, avec Sabine Vespizer, j'ai trouvé un havre qui m'a permis peut-être de sortir de l'étiquette. Mais j'ai eu des conversations très nourrissantes avec elle autour de ça, c'est-à-dire que...
Ce côté alsacien qui vous...
Écoutez, non.
Non.
Encore une fois, à part, c'est vrai qu'il y a des très belles choses en Alsace.
C'est de bons éditeurs.
Les Gewurt, Alain Bachung...
Non, parce qu'on parle un peu d'Alsace dans votre livre,
bien,
mais...
Voilà. Mais non, c'était pas cette fibre-là qui m'a parlé. C'est tout à fait autre chose, mais il y a une il y a quelque chose qui m'a répondu. Et ça paraît une évidence que les éditeurs lisent et avec lesquels on doit pouvoir finalement établir ce dialogue. Mais c'est pas si évident que ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, peut-être, voilà quoi. Enfin, c'est comme jusqu'en 64 ou peut-être même un peu encore après. Il y avait des gens, parce qu'ils avaient la peau noire, qui devaient boire à des robinets séparés. Il y en a peut-être un peu marre qu'en littérature, ce soit la même chose, quoi. C'est-à-dire que... Enfin, littérature noire. Moi, mon éditrice, Sabine Vespizer, m'a pas dit « Alors, est-ce que vous faites de la littérature noire ?» Elle a aimé le livre. On s'est parlé autour de ça. On travaille. J'avance. Je continue d'écrire des livres. Elle me demande pas « Alors, est-ce que tu écris un livre noir ?» J'écris un livre.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, donc, on reste persuadé d'une chose, Anne-Lise écrit un livre. Donc, La solitude de la fleur blanche aura engendré une autre fleur, que nous espérons aussi belle et aussi blanche. Eh bien, il me revient de conclure, et je vous invite donc à rejoindre l'exil et le royaume d'Anne-Lise Roux plus tôt. C'est un livre qui en vaut vraiment... enfin, pas la peine, parce que c'est pas un livre qui fait de la peine, au contraire. Et j'espère qu'on reverra assez vite Anne-Lise avec un prochain roman. Et je vous remercie d'être venus nombreux. Vous pouvez venir maintenant, sinon discuter, au moins vous faire dédicacer le livre que vous pourrez, bien entendu, acheter à l'entrée. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Merci Anne-Lise.